Match en cours présentement à la Coupe du monde de soccer. La Croatie, elle est devant 1-0 sur le Nigeria, 67e minute de jeu. En vous rappelant aujourd'hui que la France l'a emporté 2-1 sur l'Australie, l'Argentine et l'Islande. Match nul de 1-1. Messi qui a raté un pénalty. On en parlera d'ailleurs avec notre collègue Arcadio Marcuzzi qui est sur place là-bas en Russie. Donc, est-ce une bonne transaction de voir arriver notre ami Max Domi avec le Canadien et de voir Alex Galchenyuk quitter pour l'Arizona? Danny Dubé avec nous. Salut Danny.
Salut Jérémy.
Est-ce que c'est une bonne transaction, Danny?
Je suis un peu inquiet. Honnêtement, je suis un peu inquiet pour plusieurs raisons. La première, c'est que le jeune Domi arrive d'un marché non traditionnel, zéro pression. Mm-hmm. Alors, lui, quand ça compte, là, ça compte pas souvent. T'sais, s'il joue un mauvais match, il n'y a pas un choc qui s'en aperçoit dans l'aréna. Dans le fond, les gens sont pas très, très avertis, à moins que ce soit des gens avec quand on y va avec des chandails du Canadien qui connaissent la game, si tu me prêtes l'expression. Non, j'étais un peu sarcastique là-dessus parce que, écoute, moi, je pense que c'est très difficile pour un joueur qui arrive d'un marché non traditionnel, qui a pas réussi à s'établir et de faire l'inverse, tu comprends? D'arriver dans un marché traditionnel et d'avoir de l'impact. Quand t'as pas été capable de le faire, dans un marché comme celui de l'Arizona, où quand même les portes étaient grandes ouvertes, on a accueilli ces bonhommes-là à bras ouverts. Lui, il venait rejoindre Christian Dvorak. Il avait joué ensemble à London. Il veut dire, la table était mise. Là. Le scénario, il est parfait. Là. Ça ne fonctionne pas. Le résultat des courses, ce jeune homme-là, qui est combatif, qui a du cœur. Écoute, quand tu regardes la personne, j'adore ce qu'il dégage, ce qu'il apporte. Puis je pense que ça, le directeur général a tout à fait raison. Les intangibles, c'est un joueur qui va apporter beaucoup sur le sens commun, sur l'identité de l'équipe. Mais la réalité, c'est qu'offensivement, il a marqué 36 buts en plus de 200 matchs dans la Ligue nationale, 220 pour être précis, 222. Là-dessus, il y en a seulement 5 en avantage numérique. Il y a 4 filets déserts. Et c'est un gars qui n'a pas beaucoup de contributions offensives pour un joueur de cette envergure quand tu parles en première ronde, puis quand même dans les 12e, là, donc presque dans les 10 premiers.
Est-ce que ce choc électrique-là pourrait, par contre, l'aider? Tu sais, c'est un gars carbure au spotlight, puis il n'y en a pas en Arizona.
Ben, il y a le vouloir, puis il y a le pouvoir.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, moi, je pense pas que si tu es un vrai pro, que tu as besoin, que la foule te crie après ou que ça marche pas, que tu lis les journaux puis que tu as besoin de ça pour carburer. Je pense que si la première pression vient de toi, tu es capable de t'auto-gérer ça. Puis honnêtement, le seul avantage que je lui donne, c'est que l'Arizona, c'est une organisation tout croche. Donc, lui, il était à l'intérieur de cette organisation tout croche, puis c'est pas facile pour un jeune d'évoluer dans une organisation qui est tout croche. Mais en même temps, il aurait pu avoir de la difficulté puis avoir 22 buts puis finir avec moins 15, moins 20, moins 22. Tu comprends? Mais quand même marquer ses buts. Parce que là, on parle souvent des buts de Galchenyuk qui comptent pas. Je veux dire, c'est correct, c'est vrai. Là, il a marqué des buts dans des situations où bon, l'équipe était... Mais les buts de Jonathan Drouin, il y a 2 ans, quand on l'a amené à Montréal, c'était des buts qui avaient été marqués l'année où le Lightning n'avait pas participé aux séries. Même chose pour Max Domi. Alors moi, je fais juste soulever la question, à quel moment ça compte vraiment les buts? C'est quand tu es en série, il n'y a aucun match d'expérience en série, ce petit gars-là.
Clairement. Puis je regardais en plus l'alignement des Coyotes de l'Arizona au mois de mars. Écoute, il était sur le deuxième trio avec Dylan Strome et Zach Rinaldo. Tu sais, Zach Rinaldo, là, on s'entend pour dire que c'est pas la 8e merveille du monde là, non plus.
Ouais,
tu sais, disons que le contexte, je comprends ce que tu dis, que le contexte était favorable pour éclore parce que beaucoup de place lui était...
Ben, au moins pour te faire une place, excuse-moi de t'interrompre, mais au moins pour te faire une place. Tu sais, je veux dire, après que ton jeu est pas parfait, que t'as des lacunes, que tu joues pas bien dans ta zone, que tu triches, que ben, tu penses plus à ta fiche personnelle. Dans une équipe qui gagne pas, ça arrive souvent. Là. Mais écoute, là... Je vois vraiment ce que le Canadien est allé chercher. Puis je pense vraiment, comme eux, que c'est une bonne personne. C'est un gars qui va amener beaucoup d'énergie, beaucoup de... Il va jouer un peu... Jérémy, il va jouer un peu comme Andrew Shaw. Tu comprends?
OK, ouais.
Tu sais, un petit joueur rapide, hargneux, fatigant, baveux, qui va au filet... probablement avec des meilleures habiletés là, ouais, qu'Andrew Shaw, on est d'accord là-dessus, mais je parle dans la manière de se comporter sur la glace. On est pas mal dans le même registre.
Parce que je l'ai vu jouer au championnat mondial d'hockey junior, était pour équipe Canada avec Connor McDavid d'ailleurs cette année-là, le Canada avec Benoît Groulx, je pense, qui était l'entraîneur-chef. Puis ouais, t'es capable de voir que ce gars-là a du talent offensif.
Mais c'est pas un marqueur.
C'est pas un marqueur. Passe beaucoup la rondelle, exactement, beaucoup plus qu'on peut imaginer. Je sais pas, alors, si le monde s'attend à ce qu'il marque
toi,
25 buts, là, mais
alors, ma question
il passe
toi,
la rondelle.
Il passe la rondelle à qui?
Là, présentement, c'est une excellente question. À Jonathan Drouin, peut-être? je ne sais pas.
Jonathan fait des passes, lui aussi. Là.
Oh,
à un moment donné,
là,
c'est... on a reproché à Jonathan de ne pas lancer cette année. Puis là, je ne suis pas en train de faire le procès de Jonathan. Là. Je fais juste, on jase. Là. Je regarde ça froidement. C'est un joueur qui a quelque chose à offrir, mais pour moi, ça reste un joueur complémentaire.
OK, mais est-ce que c'est la première... Ben, pas est-ce que c'est la première... C'est la première étape de Marc Bergevin. Écoute, il y a de la place à masse salariale. Faut que tu ramènes des joueurs pour être capable de faire fonctionner tout ensemble. Là.
Lui, là, s'il n'y a rien d'autre qui se passe, c'est perdu dans l'univers, tu comprends?
Ouais.
Lui, c'est un joueur complémentaire. En ce qui me concerne, là, moi, je vais juste donner mon opinion. Là. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai raison, là. Mais moi, je pense que c'est un joueur complémentaire. Un joueur complémentaire, c'est quoi? C'est un joueur qui est là pour bien faire paraître les autres ou faire produire les autres ou y amène les autres à être meilleurs. Donc, il y a quand même un certain leadership dans le gars. Il y a quand même une zone d'influence. C'est pas négligeable. Mais ce que je dis, c'est que le Canadien n'a pas de joueur de centre, n'a pas de défenseur de premier plan à part chez Weber. En tout cas, certainement pas à gauche. Et est à la recherche d'offensive et on envoie un générateur d'offensive, même si on peut dire ce qu'on veut sur la production offensive de Galchenyuk, ce qu'on veut sur sa production en 55, ce qu'on veut sur son jeu défensif, j'adhère à tout ça.
Mais il y a
partiellement.
Il y a dedans.
Puis j'adhère à tout ça. Puis je fais une pause partiellement. Parce que j'ai vu aussi des joueurs comme lui, Evander Kane, on va prendre Tyler John Seguin. Des gars qui ne cadrent pas du tout, des mal-aimés qui arrivent dans un marché où c'est un petit peu plus... C'est un peu plus relax. Puis tout à coup, oups, ils trouvent leur niche. Alors, moi, je pense que... Je ne dis pas que demain matin, Galchenyuk va marquer 30 buts. Mais je pense que dans le pari que les deux organisations font, les probabilités de réussite en ce qui concerne la production offensive, on s'entend. Puis je sais que Marc Bergevin dit « Regarde pas juste les chiffres. » Puis je suis d'accord avec lui. C'est un ensemble, c'est un tout. Mais il reste que là, le Canadien est à la remorque de l'offensive. Il cherche des buts et il laisse partir des buts. Puis il amène un gars qui ne joue pas au centre de façon régulière puis qui ne peut pas contribuer de façon significative en attaque, à moins qu'on lui donne autour de lui des vrais marqueurs, des marqueurs comme Pacioretty, qui sont capables de vraiment là, compléter le jeu d'un joueur comme lui, qui a quand même une bonne vision de jeu, puis qui est créatif, puis on l'a vu au championnat du monde. Puis je pense que ça, c'est là. C'est un bon joueur d'hockey.
Un coup de patin quand même exceptionnel. Là. Il est très, très rapide.
Oui, en fait... Il est explosif.
Ouais.
Donc, il sort du... Quand c'est le temps de sortir de l'espace, de trouver l'espace libre, il sort vite. Là. Il dégaine. T'sais. Il sort des blocs de départ assez rapidement. Donc, ça, c'est certainement un avantage pour lui.
Bon, ben en espérant qu'il se passe d'autres choses chez les Canadiens, mon cher ami Danny.
Ben, écoute...
ça prend des buts à un moment donné pour gagner. T'as pas le choix.
Ben, c'est important que les gardiens soient bons. Mais les gardiens ne gagnent pas la Coupe Stanley. C'est l'offensive qui gagne la Coupe Stanley. Puis, le message qui a été envoyé quand même cette année par cette victoire des Capitals de Washington, c'est que la patience, ça paye.
Clairement. J'espère qu'on va garder ça peut-être en mémoire avec Pacioretty.
J'espère aussi.
Ce sera le fun. Si tu as besoin de buts, ça l'aide. Je le répète, ça l'aide à gagner des matchs. Danny Dubé, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Toujours un plaisir, Jérémy. Bye-bye.
Merci, au revoir. Bonne soirée. Bon samedi. OK, on s'arrête quelques instants et on parlait avec Danny. OK, moins de buts marqués par Max Domi. OK, on est en carence offensive présentement chez les Canadiens. Mais souvenez-vous d'une chose. À la fin de la dernière saison, on disait que le problème numéro un, c'est un problème d'attitude. Est-ce que l'attitude de Max Domi va changer la donne chez les Canadiens de Montréal? On pose la question à Ron Fournier au retour.